Kajika Secret.
So I don't want everyone to use the word hacker, but I want people to hack language as well as code and find new ones collectively.
Il veut que les gens hackent le langage. Il faut continuellement refaire le langage. Ce n'est pas uniquement le code. Le mot.
Collectively, this is not true. The word Democrat, even in the 17th century, could not be equivalent to the word terrorist.
I'm exaggerating for effect. But obviously the word hacker, one has to fight over as well, because the attempt is to criminalize that word.
Bandit.
So one has to take it back, like the word punk or the word queer, you take the word back. I don't know what the equivalents are in French, but I'm sure that's what it is.
Mais est-ce que tu as vu déjà un effet de contagion, par exemple? Est-ce que tu as vu que d'autres auteurs commencent à porter ce projet-là que tu es lancé?
Bien sûr. Blondeau à là. J'ai même des noms.
Parce que ça serait génial. Ça serait
absolument génial.
Ah, tu l'appelles comment, le projet qui serait génial?
Parce que le projet qui. En fait, il a dit son souhait fondamental. C'est qu'au lieu que les gens utilisent son vocabulaire qu'il propose, c'est-à-dire cette innovation linguistique, ce déplacement sémantique, en fait, que les gens comprennent le geste de déplacement sémantique et commencent à le faire eux-mêmes.
Ouais.
Et que nous commençons collectivement à parler autrement. Et donc, je me demande si.
Il y a aussi.
Le danger, évidemment, c'est qu'on tombe dans un piège et on commence à parler comme lui.
Oui, mais en fait, il y a un mouvement beaucoup plus vaste dans la société là-dessus. Par exemple, l'article du Monde l'autre jour sur les blogs des gosses de banlieue, c'était vraiment à se rouler par terre de rire, au sens où les gosses de banlieue élaborent tout un truc. Bon, comme ils sont des gosses de banlieue, ils parlent très mal, il y a plein de fautes et tout. Mais en fait, c'est une rigolade contre les flics qui est formidable.
Oui, bien sûr. Son rôle, lui, parce qu'il est quand même dans un milieu universitaire, donc c'est un qui maîtrise parfaitement, et plus que parfaitement, si bien d'ailleurs que les gens ne se rendent pas compte que du véritable danger dans tous les savoirs.
Il faudra du temps, il faut encore un an.
If it's, been infectious.
It's not for me to say, like any author, I'm governed by vanity, so of course I googled it. And it shows up in all these very, very different contexts. And that I appreciate that people in very different fields noted and do often very strange, unintelligible things with it. And that's fine with me. I think after it's published, it's no longer mine. You know, it's back in language, if you like.
Je sais pas, moi j'aime bien le projet de Mackenzie, mais pendant que je traduisais, j'en ai parlé comme ça oralement à des gens, et c'était le contraire, c'est-à-dire que il y avait un refus de cette manière d'élargir le personnage du hacker à une espèce de création politique et littéraire générale, et non, le hacker, c'est une série de technologies sur Internet, etc., enfin, de manière de détourner les technologies informatiques. Moi, vraiment, j'ai rencontré ça autour de moi partout, enfin partout, c'est pas très large, mais pas mal. Ouais.
Pas de réappropriation du mot.
Non, pas d'extension du mot, si tu veux. Moi, je suis pas une fana.
Pas de contamination.
Je suis pas très douée, moi, pour le bidouillage d'Internet, mais je comprends son mot comme une attitude révolutionnaire. Et ça, je l'admets complètement, tu as fait mienne. Alors, on me dit, mais c'est romantique, c'est je sais pas quoi, enfin, non. Espèce de. Oh. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de sectorialisation, y compris dans le monde. Des hackers au sens technique du terme, qui est très très fort. Et aussi l'autre truc compliqué, par exemple, je connais, c'est une personne, mais je trouve assez représentatif, des gens qui manipulent beaucoup d'informatique dans le cadre de leur boulot salarié dans des très grandes boîtes, hein, et qui ont donc accès en fait qui ont du matériel par ailleurs chez eux pour faire du hacking ou si on veut faire pour faire autre chose, mais qui sont dans une division alors qu'on a connu à ma génération plutôt sur le boulot institutionnel et politique, hein, qui divise, enfin on avait travaillé là-dessus avec Guattari par exemple. Bon, parce que les gens donc divisent leur vie en deux. Hein? Alors le soir, la nuit, ils vont aller sur les sites, piquer des tas de trucs, etc. Mais dans une attitude qui est finalement consommateur de politique et de révolution et de tout ce qu'on veut, mais en passif. Hein? Et dans la journée, ils travaillent pour les très grandes, les fameux vecteurs, là, ils travaillent pour les très grandes boîtes. Et ça, c'est un, ouais, pour l'instant, c'est ça la situation.
Ah, je pense que nous sommes tous piégés dans cette schizophrénie imposée.
Ben, on n'est pas forcé d'y rester. Non, parce que si tu veux, bon, moi j'ai travaillé avec Félix Guattari, dont il s'inspire, paraît-il. Alors, vraiment, ce qu'on a posé en 65, c'était justement traverser la barrière en permanence. Enfin,
c'est tout l'intérêt des barrières. Ouais.
Moi, je voudrais revenir.
On est dans une époque duale, on n'est plus du tout dans l'époque de la cohérence. On est vraiment dans une époque où on intègre à la fois le bien et le mal, le vecteur et le geste contre le vecteur. Mais moi, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Anne, c'est que je crois que ce que font les gens quand ils ont fini de travailler pour le vecteur, ce n'est pas qu'ils vont chercher des choses sur Internet, ou piller ou voler, ils créent simplement, ils créent. Ce qu'ils ne font pas dans leur travail.
Ouais. Pour moi, un des plus grands moments de l'Internet en France, c'était lors d'une conférence, une des premières Élite conférences.
C'est ça le but.
Quand les mecs qui travaillent profond pour les grosses compagnies,
ouais,
et qui amènent, tu vois, les grosses bandes passantes, mmh, sur les petites compagnies, se sont mis avec les activistes,
ouais,
et ils se sont parlé, ils se sont regardés, ils ont dit, mais peut-être il faudrait en mettre un peu de côté pour nous.
Ouais.
Ça a été le moment le plus radical que je connaisse dans l'internet français.
Techniquement, ça s'est décidé.
Voilà, et ça a été foum-foum. C'est-à-dire, nous, on sait faire les boulons profonds, d'autres ont besoin d'accès, tu vois, et on sécurise l'accès.
Je pense que c'est possible. Moi, je pensais à quelqu'un de très précis. Comme
bah, moi, c'est
des choses à court.
Je pense que c'est des gens très précis. Oui, c'est pour ça que je pense à quelqu'un.
C'est ça qui me trouble dans, la, dans la, le troc de hacker. C'est le problème de par exemple, dans la publicité maintenant. J'ai l'agence de Jean-Marie Le Trou qui utilise les conceptions pour moi assez de situationnisme appliquées à la publicité. Ça veut dire la technique de définir le langage conventionnel, créer ce qu'il appelle la disruption, transformer ce langage, créer quelque chose qui ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut dire hacker le langage. C'est un processus pour sûr, processus pour une modification de ce processus. Donc déjà, cet acte d'hacker, c'est bien, un bien, il faut juste acheter.
Oui, mais c'est instrumentalisé.
Tout de suite.
Ben, c'est comme une amitié. Instrumentalisé, c'est pas une amitié.
C'est on n'a pas peu de réification de cet acte.
On oublie la dimension de l'invention et de la création qui est quand même l'objet de son livre. C'est l'invention et la création. Parce que le livre de Ken, quand même, c'est un livre qui rejoint totalement le matérialisme historique en fichant le concept d'invention à la place du concept de progrès, quand même. Enfin, c'est pour ça que je me suis accrochée à ce livre. Parce que je pense que c'est vraiment un livre qui hacke l'histoire, qui hacke le matérialisme historique, qui hacke tout ça. Et lui donne une vision d'histoire chaotique, là où par exemple en Allemagne, comme je l'ai écrit, Habermas actuellement, restaure le matérialisme historique avec le concept de progrès, etc. Alors que bon, progrès, on a vu où ça nous amenait. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que le concept de hacker, c'est l'inventeur. C'est le type qui est capable d'abstraire dans une situation donnée, de hacher de nuit un code, quel qu'il soit. ça peut être un garagiste qui invente un certain bouchon couronne qui est devenu le brevet Coca-Cola. Je le sais, parce que c'était un gars de mon village. Bon, ça a l'air ridicule, mais c'est vrai. Donc ça peut être aussi un gars comme ça. C'est un type qui, dans son métier, par exemple, va avoir une idée totalement transverse, totalement autre, qui va décoder, qui va retourner le code au profit d'une invention qui n'aura pas été prévue, qui n'aura pas été prévue. Donc ça vaut pour le numérique, mais ça vaut beaucoup de choses. Donc pour moi, parce qu'il me semble qu'il ne faut pas réduire le hacker de Ken à quelque chose qui est uniquement au niveau de la superstructure du vecteur. Il y a quelque chose de beaucoup plus symbolique et, on va dire, anthropologique là-dedans. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire.
I just want to make two points. Firstly, we should stop and have a drink very soon.
Yes. Well, some of us have been drinking all along.
A celebratory drink then, because I haven't even had my first one yet. The other point I want to make is the hack is something that it's only named after the fact. It's only afterwards, retrospectively, that you say what it was and who owns it and who can do what with it. In the moment, it's being created. It's nameless. It can't be named. And it's something that can happen even during working hours, because this is the kind of labor that you can't really manage and measure. So, yes, often it's when you go home that you get to do creative work, but often you do it on the clock during the working day, because no one knows what it is that you're doing. You know, and that, to me, is the interesting phenomena, where hacking becomes either different from labor or a different kind of labor, and it gets much, much harder to manage. And that also is, I think, something quite encouraging about it. You can't turn it into factory work. When you do, it's not the same thing. So there is always that little margin of possibility, and that, to me, is a source of hope, that there's something that escapes. So it doesn't necessarily give rise to a politics that has banners and names. It's much more something that escapes, that's in between, that's a bit liminal. So one has to think about both an ethics and a politics and an aesthetics that's a little bit different, that's a little bit outside of the system of naming.
I think I just want to say one thing, since I was supposed to say something.
I know, I was sort of like getting you
I'll get really short because I wasn't supposed to say anything. But I think it has to do, I think it links up with what's sort of been said. This book was extremely transformatory for me for a number of reasons, which I don't need to go into, but first, I didn't understand the book. I understood something about your background. I mean, I also come from a background which is linked to the background of the book, the critical theory background, Habermas, the Frankfurt School, the second Frankfurt School, the first. But I understood that there was something. Bon, il y avait quelque chose qui a été proposé dans ce livre qui était beaucoup plus fondamental, qui était lié aussi à cette notion du désir, ce désir sans objet. À savoir le désir. Une théorie du désir, Ken. Ni la théorie Ken. Psychanalytique, ni la théorie néolibérale.
Nathalie, c'est ça.
Mais qui s'affirme par le oui. For me, this book is about the word yes. It's not about no. And critical theory is about no. It's about no to the law. It's about no to the boss, the man, the system. This book, of course, and in the notes, sometimes we get a lot of information. The notes are extremely important in the manifesto. A lot of information about the no. But ultimately, the book is really, it's like you say, there's something that can't be reduced to the factory. You know, there's something that escapes. There's fissures. This book is about making fissures all over the place. And there's something that's going to escape. And it's something like the yes. And I think the book transformed me in the sense that it allowed me to conceptualize a move, like in a midlife crisis or something, from a culture of the no to the law to a culture of yes to desire.
Mm-hmm. I would like to thank those Australians who taught me to read Deleuze, some of whom are here tonight. because in a sense that was partly where it came from. It's not an obvious thing to teach or to read in Australia in the 80s and 90s, but it's the source of that that idea thing that at the moment I find very necessary. It's a yes, but which doesn't necessarily name the object. The affirmation is itself the act.
Yes,
there's no object.
But this is a little bit of a dissident yes, because we think of yes, I mean, from a critical theory perspective, we think of yes as being, you know, it's the affirmative culture or something like that. But this is like a dissident, non-consensual yes.
You have to pay to use the word yes.
But that's extremely seditious, I think.
Well, Marcuse also.
No, Marcuse was a nomad.
No.
Est-ce qu'on peut voir le mot hacker sur un terme intergénérique comme une philosophie de vie ou comme un style de vie ou comme un vecteur de liberté ou comme une stratégie de liberté qui peut être pratiquée par chacun de façon non professionnelle.
Yes.
C'est-à-dire que le hacker n'est pas seulement celui qui maîtrise la technique informatique.
Yes, but it's not descriptive. There's no one way. It's not a prescription. There's no one way. But generally, yes.
Qui est général.
Il n'y a pas une seule façon d'interpréter le terme. En fait, ce qui n'avait pas été traduit tout à l'heure, mais qui peut vous aider à comprendre, c'est qu'il disait que tous les termes, en anglais, la raison pour laquelle il avait utilisé hacker, vous demandez pourquoi est-ce qu'il avait utilisé ce terme là. La raison pour laquelle il a utilisé hacker, c'était pour redonner, pour réapproprier quelque chose en anglais, parce que la plupart des mots théoriques. Tout à l'heure, il a expliqué que la plupart des mots théoriques en anglais avaient une racine latine. Et que donc, ce qu'il avait voulu faire avec le terme hacker, en utilisant le terme hacker, c'est utiliser un mot de racine saxonne, un mot qui est présent, un mot qui retourne aux origines.
C'est un mot qui est employé partout.
Non, mais c'est pourquoi il voulait l'utiliser. Quand il posait la question sur le titre, ouais. Ce qu'il voulait expliquer, c'est que c'était une manière.
Oui, c'est ça, c'est là.
Ce qu'il y avait dans le titre,
c'est écarrir les planches sur la construction au Moyen-Âge.
Voilà, c'est ça, que c'était un terme paysan et que c'était un terme saxon. Donc, c'était pas un terme latin, c'était une manière de se réapproprier la langue.
Voilà, c'est pour ça qu'il y a un sens fort. D'accord, mais. Oui, mais en même temps, bon, je suis d'accord, c'est un sens fort d'une racine saxonne. C'est un mot qui est employé par tout l'univers des gens qui travaille sur Internet. C'est pas lui qui
l'a. Est-ce que non? Parce que c'est un mot qui est employé par des ouvriers tous les jours.
C'est un mot
très populaire qui est utilisé pas du tout dans ce sens-là par des ouvriers tous les jours quand il s'agit de couper la chaise.
Oui. Non, d'accord. Oui, mais enfin, il n'empêche. Il n'empêche que dans l'univers de l'Internet et d'aujourd'hui même de la société française, manifeste hacker, ça renvoie au hacker, et d'ailleurs à une vision souvent extrêmement négative des personnages en question. Alors après, quand on remonte dans le dictionnaire, on trouve les autres sens, etc. Mais ce mot, cette utilisation sur Internet, elle existe, je suppose, enfin, je ne me rends pas bien compte, mais elle existe déjà depuis un certain nombre d'années.
Elle existe depuis que dans les universités, on a baptisé hacker les types qui achetaient le code menu pour trouver le logiciel libre. Enfin,
ah oui, donc en français,
c'était
c'est
ça
pas
au départ, non
vrai.
C'était un langage pur et de. C'était un jargon professionnel, quand même, c'est vrai.
Non, mais absolument, hacker, ça a émergé au MIT.
Un jargon professionnel.
Oui, mais, non, mais c'est vrai que ce qu'il dit dans son bouquin, c'est que ça renvoie au. Vieux mot saxon, l'écarissage qui est sur les chantiers des cathédrales. Ça m'a d'ailleurs été droit au cœur parce que j'aimais beaucoup les cathédrales. Mais donc c'est un mot polysémique, mais qui entre dans un champ aujourd'hui et surtout en français où il est complètement codé d'une certaine façon.
Alors, il y a quand même une chose aussi, on a c'est un hacker manifesto, on va dire
oui,
c'est un manifeste hacker, et on va même dire que c'est un manifeste de hacker. en fait. Ben, c'est volontairement, j'ai pas traduit, bon, parce que ça marche pas, mais c'est un manifeste de hackers. Donc c'est très relatif tout ça. Ça veut dire que c'est quelque chose dans l'aventure des hackers qui est singulier, ce livre. C'est quelque chose qui parle de la singularité hacker. Et donc, peut-être une autobiographie de Ken aussi, en filigrane là-dessous.
Ce qu'il faut espérer, c'est que le verbe hacker entre en français comme vous avez souhaité.
Mais tout le monde
est 293.
Tout le monde est délire. Hacker, je me suis renseigné.
Mais dans le passage 293 que j'avais recherché tout à l'heure,
Alors,
le verbe n'est pas du tout utilisé dans le sens où il était utilisé pour l'instant. C'est hacker le manque qui manque le hack. Et là, hacker, c'est dans le sens
Là, on l'a fait parce qu'on avait besoin, si tu veux, retrouver le rythme poétique et tout. Il y a deux choses dans ce livre. Moi, je suis une lectrice bilingue, parce que je suis incapable de lire en américain, farouche de Paul, passionnée de D.S. Eliot, et farouche passionnée de Mallarmé, et farouche passionnée de Jean Abbas. Alors, Jean Abbas, il n'y a pas plus obsolescente, que Jean Abbas. Elle est dans l'obsolescence totale. Bon. Et donc, moi, si tu veux, j'ai pris ce livre, et je l'ai lu, et je me suis dit, à un moment donné, on est exactement dans une configuration poétique, comme chez Eliot, comme chez Mallarmé, c'est-à-dire il y a le spectre de l'abstraction. À un moment donné dans le livre, il est là, il a réussi à l'actualiser par les mots. Et ça, c'est une écriture poétique caractéristique, tu vois. Mais il faut lire un certain temps pour y arriver. Et quand on arrive à cette espèce de vision mentale, on a vraiment le spectre de l'abstraction, il est là, quoi. Il arrive à faire ça. Et donc, je trouve qu'on est... C'est pourquoi j'ai considéré qu'il fallait attribuer le hacker à l'invention, surtout que le livre commence par l'abstraction au lieu du communisme. Et donc, l'invention à la place du progrès, et que donc on arrive, en fait... à un hacking de l'histoire et à une, comment on disait les breakers dans le hip-hop, c'est une histoire matérialiste, il récapitule l'histoire matérialiste historique comme un breaker, comme un hacker. Et ça, c'est un langage poétique. Bon, enfin, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais enfin, moi, c'est ça qui m'a passionné. C'est ça qui m'a passionné, au-delà des classes, tout ça, puisque je suis une ancienne activiste d'extrême gauche. Tu vois ? Donc voilà. Et donc je trouve qu'on oublie trop en parlant de la dimension technologique, politique du livre, sa dimension. Est-ce que c'est une performance ? Est-ce que c'est de l'ordre de la poésie ou de la performance ? Je ne sais pas.
Si c'est une performance, c'est pas de l'art. Il avait dit que c'est de l'art.
Je ne sais pas si c'est de l'art ou de la poésie, mais il y a une dimension performante.
Yes, you can also throw the prejudice.
Voilà, quand même. Et donc, en français, je vais vous dire, on a quand même essayé de redonner. Il y avait une dimension Beckett. Moi, j'ai dit, il y a des tautologies dans ce livre, c'est pas possible. Il y avait des tautologies, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et en effet, il y a une dimension aussi absurde, il y a tout ça dedans. Et il y a un moment où on est obligé de faire le choix de la traduction qui va aider la forme littéraire et poétique du livre. Et c'est tout ce que je voulais dire. On est obligé de le faire à un moment. Et c'est dans cette perspective qu'en tant qu'éditeur, j'ai pris la décision de garder les mots tels qu'ils étaient, en considérant que puisqu'on était dans la mutation, on était dans la mutation, y compris celle-ci, et d'autre part, la décision d'introduire du passé, du temps passé au début du livre, pour rétablir la dimension épique en français. Alors là, en effet, c'était pas possible de le faire au présent. Là, en effet, on ne pouvait pas, en français au présent, redonner cette dimension épique. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, j'ai eu le temps.
Non, merci éditrice. Merci éditrice. Merci Éditrice d'avoir eu le courage de sortir.
Non mais c'était surtout le courage quand on est plusieurs traducteurs et qu'on parle d'une première traduction héroïque qui était vraiment héroïque de la part de Anne. C'est beaucoup de courage aussi de devoir entrer en conflit avec des amis. Vous comprenez?
Ça, c'est autre chose.
Mais c'est compliqué. Et ça a mis du temps. C'est pour ça que ça a mis si longtemps, tout ça. Parce qu'il y avait aussi les facteurs humains. Vous comprenez? Et je pense que Ken a écrit un livre qui est celui de sa singularité. Nous avons sorti un livre dont je veux vraiment dire qu'il est...
Aliette, il y a une question pour toi.
Tu es susceptible par rapport à la traduction, je trouve que c'est énervé, tu l'as traduit.
Ah ben merci, mais je n'ai pas traduit moi.
Mais on n'a rien dit par rapport à la traduction.
Et on ne connaît pas les choses.
Je me réjouis de la traduction.
Tout le monde ne parle que de l'anglais, alors merde, on a fait un travail de fou.
C'est l'auteur anglais, donc.
Non, mais oui. Bravo.
On est nombreux à avoir fait un travail de fou quand même, gratuit quasiment. Non, mais c'est vrai, on s'est posé toutes les questions, c'est ça que je voulais vous dire.
On n'a pas traduit. C'est clair, évidemment, oui. Mais heureusement qu'elle existe maintenant.
Mais on considère que Ken est un écrivain. C'est une
force massive et subversive.
Non mais en plus comme outil, comme objet, c'est un objet qui est très next 5 minutes-esque. All the way down to...
Ladies and gentlemen, can I thank you all for coming?
Well, thank you for writing it.
I'll be here for a while, it's time to have a drink.
Yeah!
To talk informally.
Stefan, let's go.
He was here just a minute ago.
Where is Stefan?
It's right behind you.
Stefan Rice.
Right there. I would like to thank Critical Secrets. I would just like to say that Critical Secrets believed in this book before anybody in English was prepared to publish it.
In English?
Yes. So the first person who wanted this book was Aliette, and my thanks to her. Cheers! To hacking!
Yay! Alright!
Au prochain,
qu'est-ce qu'il écrit?
Critical Secrets.